Donc on a parlé hier sur la joie, la tristesse, on va continuer un peu. J'expliquais en deux mots que la joie, c'est pas une mitzvah en soi. Mais c'est sans ça, il n'y a aucune mitzvah. C'est avant les mitzvahs. C'est sur quoi se pose. La mitzvah peut se poser, peut se faire par quelqu'un qui est en joie. Quand il n'y a pas de joie, il y a à peine, la mitzvah elle est à peine faite. Ça veut dire que tout le monde comprend que si je force. On va dire, une femme va forcer son mari à lui offrir un bouquet de fleurs, qu'il ne veut absolument pas lui donner, d'accord? Mais il lui dit, tu fais pas ça, tu auras le rouleau de pâtisserie sur la tête. Bon, il y va, tiens, bobonne. Fais un sourire, tiens, bobonne, d'accord? Tout le monde comprend que il manque quelque chose, n'est-ce pas? Alors, si nous faisons maintenant le service de Dieu, parce qu'on a peur du rouleau à pâtisserie du bon Dieu qui va nous tomber sur la tête, qui peut être toutes les formes de contrôle fiscal, une chimiothérapie, un enfer, enfin tous ces trucs terribles que les bon Dieu, qui sont vraiment des rouleaux compresseurs plutôt, qui existent, hélas, d'accord? Si quelqu'un agit dans la mitzvot parce qu'il tremble des factures, ok, bon, alors il a fait la mitzvah, t'as reçu ton bouquet, ça va. Mais tout le monde comprend que ça manque. Quand c'est un jet d'amour spontané qui vient du cœur du mari pour sa femme, tiens, je t'adore, je t'ai fait une surprise, et hop, un beau bouquet de fleurs, le sourire de la femme, il est différent. Même chose avec Akash Bourou. Donc, c'est un acte d'amour, et l'amour procure de la joie. L'amour est une chose qui fait vibrer. La joie, c'est. Il y a certains mots qui sont des mots synonymes. Joie, bracha, bénédiction, c'est-à-dire qu'il y a un flux de Dieu, chayout, vie, vie intense, kdusha, sainteté, proximité de Dieu. Amour de Dieu, tous ces joies, c'est à peu près la même chose. Je ne peux pas dire que ce soit ou l'un provoque l'autre, ou l'un est l'autre, c'est la même chose. Qui est le but? Le but est aussi Olam Haba. Mais on ne peut surtout pas réduire notre vie à dire bosse. Et si tu es bien comme il faut, à la fin, tu auras ton mérite. Comme tout le monde comprend qu'on va pas, quand tu dis un gosse et tu dis ta page de chumash, tu auras une sucette, que le gosse qui fait, tu dis sa page de chumash. Très bien, alors ça sera une belle sucette, mais tout le monde comprend que ce n'est pas le but ultime, étudier la page de chumash. Lui, tu dis pour la sucette, mais tout le monde comprend que le but ultime, c'est étudier la page de chumash. Et lui ne le fait pas dans ce but ultime, il le fait pour la sucette. Donc il y a ici un non-sens, un sens infantile. Alors, il existe la grosse sucette qui est Olam Haba, qui est une grosse, belle sucette, qui est, je vous garantis, c'est la plus belle sucette qui existe au monde. Mais tout le monde comprend que ça ne peut pas être le but ultime. Bosse dans ce monde-là, voilà, tu as 70 ans de travaux forcés, et tous les registres de la vie sont touchés. Alors, comment lacer ton lacet, comment t'habiller, comment te lever, comment te coucher, comment vivre, comment manger, comment boire, comment te marier, comment faire du business. Tout est légiféré par. Donc, tu n'as pas un millimètre, tu as comment penser, comment ne pas penser. Donc, c'est vraiment les travaux hyper forcés pour que quelqu'un qui le fait en tant que forcé. Alors, tu auras à la fin un beau Olam Haba. Ok, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est pas. C'est faux, c'est infantile, c'est infantile, ça existe. Le Rambam dit, c'est un secret qu'on dévoile que très lentement aux ignorants. Pourquoi je dois servir Dieu? Par amour. Quoi par amour? Qu'est-ce que c'est par amour? Comment par amour? Qu'est-ce que j'y gagne par amour? Tu y gagnes rien. Tu y gagnes rien. Tu le fais parce que c'est l'être. C'est l'être, c'est la réalité. C'est une notion qui est très dure à comprendre. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose qui est une réalité. Or, le fait de s'investir dans la réalité, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il y a, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de choses meilleures que cela. Il n'y a rien d'autre. Or, nous voulons être. Nous voulons être. En feedback, ça procure aussi beaucoup de plaisir. La joie égale la vie. Quand tu te réalises dans ce qui est, donc tu vis, donc tu es en joie. Quand tu te réalises dans ce qui n'est pas, donc tu te réalises pas, donc tu n'es pas, tu es en tristesse. Alors, c'est très fin, parce que quelqu'un, quand il fait le néant, quand il fait des erreurs, quand il fait des bêtises dans la vie, qu'est-ce que tu dis que j'ai une jouissance extraordinaire, je kiffe, je suis heureux. C'est très, très millimétrique, très épidermique, très superficiel. Alors, quand quelqu'un est superficiel dans la jeunesse, alors, tu es superficiel, on te donne des plaisirs superficiels, tu kiffes. Mais assez rapidement, quelqu'un arrive à plus de profondeur dans la vie. Les malheurs de la vie vont le rendre plus profond, plus responsable, ou sa neshama qui se réveille, qui dit « Ok, mais t'es pas venu rien que pour ça dans le monde », et il demande un sens. Plus que cela, quand quelqu'un investit beaucoup dans le mal, alors il fait partie du mal, et le feedback vient un beau jour, terrible. À part les coups durs, d'accord, tous les moyens que Dieu a pour réparer quelqu'un, qui ne sont pas agréables, quand tu as investi dans ce qui n'existe pas, alors au bout d'un moment, tu as un feedback qui vient de ce qui n'existe pas. C'est quoi ce qui n'existe pas? La mort. Tu ressens en toi des pulsions de mort. Ça s'appelle la tristesse. La tristesse, c'est quoi? C'est t'as envie de rien. La déprime, t'es rien, rien t'attire. T'es mort, presque mort. Bon, ok, alors les fonctions vitales, encore plus ou moins, tu respires, tu manges à peine. Des fois même ça s'arrête. Quelqu'un en déprime, grosse déprime, il peut carrément passer de l'autre côté et mourir. C'est
toujours une raison qui fait que on est pas juste comme ça depuis tout à l'heure, on est triste.
La déprime, on ne sait pas, on ne sait pas. Des fois, tu as un petit déclic, mais tout d'un coup, tu as un petit déclic qui fait que tu tombes dans un... On ne comprend pas comment ce petit truc-là, il a... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il peut y avoir d'autres raisons pour une déprime. Une supertension trop longtemps, au bout d'un moment, le corps a besoin, on a besoin de moins de pression. Ok, alors il prend déprime. Pendant un an, tu ne fais plus rien. Pour sauver le corps, tu es trop en tension. Ça peut arriver aussi pour cela. Mais la déprime qui n'arrive pas à cause d'une hypertension. Parce que je n'ai plus de goût à rien. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça arrive. Très souvent. Pourquoi? Parce que tu as investi toute ta vie dans ce qui n'est pas. Au bout d'un moment, il y a un feedback, ça paye. T'investis dans une chose que tu crois. C'est ça le mensonge. Le mensonge, c'est de donner de la réalité à une chose qui n'a pas de réalité. Au bout d'un moment, bon, tu pédales, tu te rends compte que tu as pédalé dans le vide. Alors, c'est pas une prise de conscience tout à coup, clac, le flop, je vivais dans ma bulle, tout à fait un grand flop et je vois que je suis dans rien. Non. Mais vu que c'est vraiment rien, au bout d'un moment, tu sens que c'est rien, c'est tout. C'est pas un éclair, mais t'as plus de goût. Pardon?
Ça nous touche aussi.
Je comprends pas ta question, ça nous touche aussi.
Ça peut toucher les gens qui sont là-dessus, justement.
Bien sûr. Bien. Aussi, dans le monde religieux, mais ça peut toucher aussi. Absolument, faut pas croire que quelqu'un maintenant, il fait Shabbat et abracadabra, magiquement, c'est la belle vie. On t'amène un carrosse et toute ta vie. Non, il y a d'autres choses. D'abord, il y a des erreurs, il faut les réparer. Ensuite, il y a un travail, comme j'ai dit hier, au nom de Rabbi Sanaba Shaoul, il y a un travail de foi, de se brancher avec Dieu. On peut faire un Shabbat qui est le plus fade possible. Dieu veut une histoire d'amour. Shabbat, c'est une histoire d'amour. Il y a des gens qui tremblent Shabbat, qui tremblent de joie, qui tremblent... Ça doit irradier, ça doit, c'est censé être comme ça. Maintenant, on mesure, c'est marqué, c'est... Mais un olam haba, un peu comme un olam haba. C'est marqué dans la livre que quelqu'un, comme il ressent Shabbat, c'est ça sa position dans l'amaba. S'il ne ressent rien, c'est-à-dire que l'amaba, il est plutôt fade, d'accord, plutôt insensible. Si tu ressens quelque chose, tu ressens, ben ça veut dire que tu as déjà... C'est quoi l'amaba? L'amaba, c'est mon âme. C'est ça. Alors, mon âme, c'est vrai que j'y serai très sensible quand j'aurai plus mon corps, après 120 ans. Mais je dois devenir sensible à mon âme dans ce corps-là aussi, encore maintenant. Quelqu'un qui vit qu'au niveau du corps, dans ce qui n'est pas, parce que le corps disparaît, donc c'est une chose qui n'est pas vouée à être, c'est une chose qui est vouée à disparaître. C'est-à-dire c'est le mensonge, ou c'est une vérité très aléatoire, ça passe. Et il va rien investir dans la spiritualité, dans ce qu'il est vraiment, sa neshama. Alors, il ne ressent rien, il ne peut pas ressentir les choses qui sont du domaine de la neshama. Shabbat, c'est du domaine de la neshama. L'étude de la Torah, c'est du domaine, il n'y a pas de plaisir à étudier ça. L'amour de la vérité, au niveau le plus petit qu'il puisse avoir, juif ou pas, quelqu'un maintenant, il a une question de sens. Pourquoi je vis? Ce n'est pas du domaine du corps, c'est du domaine de la neshama. Il y a une partie en toi qui te dit, il y a un sens. Réveille-toi. Quel est le sens de ma vie? Je suis là. Pourquoi? C'est des questions. De qui ça vient, ça? Quand tu commences à investir là-dedans, tu deviens sensible à ces messages que tu... message que t'envoie cette partie de toi qui s'appelle l'aneshama, tu commences à cultiver ça, tu te branches, forcément il y aura des réponses, tu te branches à la source de vie, ce qui est.
C'est parce que comment on fait celui qui a été profondément lié au mal dans son passé, même s'il s'est investi, pour se déconnecter, se détacher de 49 degrés.
Quelqu'un qui était forcément connecté, très très connecté dans le mal, très profondément, il a fait les 400 coups et pire, d'accord, les 400 000 coups. Il y a des souvenirs et des choses qui reviennent. Alors le fait maintenant qu'il est dans la Torah, et qu'il regrette ce qu'il a fait, et qu'il est dans la bonne voie, il se construit, ça répare tout. Mais c'est pas, faut comprendre. L'être humain, c'est pas une crêpe. C'est pas un sac de patates. T'étais là, boulot, te mets là et terminé. C'est pas, hop. L'être humain, c'est un être, avec tout un passé qui charrie, avec beaucoup de choses. Maintenant, donc on peut pas faire changer du jour au lendemain. Tu peux te faire pousser la barbe, ça prend 3 mois, mettre un costume avec noir et blanc comme le monde orthodoxe, et mettre un bouton de tissu noir sur la... Ok, mais la bif pas le moine, encore moins le rabbin, d'accord? Rav, c'est quoi Rav? Monsieur le rabbin, Rav, c'est en hébreu, beaucoup, quelqu'un qui est beaucoup. Tu investis dans le plus avoir, tu commences à investir dans le plus être. C'est déjà fantastique. Tu allais comme ça, dans le rien, maintenant tu vas dans le comme ça, c'est bien, mais tu as fait un degré. Après 2, 3, ça prend du temps, un investissement, en fonction de l'investissement. Et je peux dire, ça va relativement vite. Ça veut dire qu'on arrive relativement vite à déjà avoir une construction. Tu crées après une famille, tu as des enfants, tu deviens tout dans la kdoucha, ça répare tout. Des fois, il faut faire des tikkunim, des choses que, bon, on n'est pas tellement cela, les tikkunim. Le plus grand tikkun, c'est la Torah, d'accord? Donc, la tristesse provient du fait qu'on a investi dans ce qui n'est pas, ou qu'on se trouve encore dans ce qui n'est pas. Maintenant, ça peut arriver aussi chez des gens religieux, parce que c'est parce que tu es religieux que tu es nickel 100%. En fonction de ton âme, en fonction de tes potentialités, on aurait exigé de toi plus. On ne sait pas qui nous sommes. De toute façon, la tristesse égale éloignement de Dieu. Moins de foi. Parce que quand tu es en état de foi, d'union avec Dieu, c'est une source de joie totale, immédiate, même dans le malheur.
C'est un manque de foi, en fait.
C'est un manque de foi.
Le fait qu'il y a un événement qui nous a touchés, on manque de foi.
Alors, ça peut arriver par un manque de foi comme ça, ou des fois, le déclic, c'est par un événement qui est dur, d'accord. Et on vivait dans nos... Beaucoup de gens, même religieux, ils vivent dans leur petite vie pépère religieux. Et Dieu dit, ok, bon, je vais travailler maintenant. Il fait 3 fois le tour dans son slip, et qu'est-ce qui se passe? Et Dieu, pourquoi il m'a fait ça? Et tatatata. Ok, pourquoi? C'est une crise. Mais il est certain que de toutes ces situations de crise, si on va récupérer la chose intelligemment, on peut sortir les meilleures choses. Des moments de crise sont toujours sortis les meilleures choses. On dit la graine, avant qu'elle commence à donner sa pousse, elle pourrit. La création du monde, d'abord, a eu tohu vavohu, balagan. Tohu vavohu, ça signifie tohu bohu, c'est-à-dire le rien. Niet, tout mélangé à la fois. Tout à coup, il y a eu lumière. Obscurité, va y air. Il y a eu d'abord le soir, après il y a eu le matin. L'enfant est né, il est Yetzerara. Qu'à l'âge de 13 ans, vient Yetzeratov, vient le bien. C'est comme ça que Dieu a créé. D'abord, il y a le rien, après il y a. Il y a le lia. On commence toujours par une situation de crise de mal, et du mal sort le bien. Regarde dans l'histoire juive, chaque fois qu'il y a eu très grands décrets de souffrance les plus durs contre Israël, de là sont sorties les plus grandes créations juives. Après 400 ans d'Égypte, on soit à la Torah.
Mais nous, dans notre vie, comment on peut réaliser ça, que du mal qu'on a pu faire, on sort du bien?
Dans notre vie, comment est-ce qu'on fait si on a investi dans le mal? Comment voir qu'on sort du bien? Le fait que tu arrives à te sortir du mal et à te construire dans le bien, ça signifie... C'est pas que... Si tu étais à zéro... Et tu as construit maintenant jusqu'à 1000, ok, tu as une amplitude de 1000. Mais si tu étais à moins 10 000, et tu as commencé à construire même pas jusqu'à 1000, jusqu'à 100, mais tu as 10 100. Le fait d'avoir été au fond du panier et de revenir, c'est extraordinaire. La Gemara dit que le lieu où se trouvait le Baal Teshuva, aucun tzadik parfait ne peut y accéder. Pourquoi? Tzadik parfait, 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 il n'a rien jamais fait de mal, il est nickel. Mais t'as rien, mon vieux. T'étais nickel, t'es resté nickel, ok, très bien, donc zéro. T'étais nickel, t'es resté nickel, c'est bien, t'es un grand zéro. Alors, bon, évidemment, il se bat aussi. Mais quelqu'un qui était au fin fond du niet, du cloaca maxima. Mais il peut réparer la tchouba, ça répare tout, je comprends pas. Il a investi, il a repris.
Mais une fois qu'on a vu, nous, le réel, une fois qu'on a vu, ça ne mène à rien, on revient, c'est normal de revenir.
Normal de revenir, et il faut se battre. Ne me dis pas qu'il faut se battre. Ça, c'est pour ça, tu charries. Moi, tu as compris, tu étais à moins 1000. Tu dis, t'étais à moins 10 000. Tu dis, mais qu'est-ce que je fais dans le fou du panier là? Je me shoote à l'héroïne avec Christine à droite et Fatima à gauche. C'est pas moi ça. Qu'est-ce que cette histoire là? Et tu sors de ça. Bon, attends, tu as compris. Ok, tu décides de sortir. Mais alors, je ne te dis pas le chemin. La désintox de l'héroïne, la désintox de Fatima, la désintox de Christine, et les images qui reviennent, et tout. C'est pas facile. Ça veut dire que tu es en train de construire. Tu n'es pas en train de pédaler maintenant, lit en horizontal. Tu es en train de pédaler l'Everest. On dit, allez, là-haut. Tu étais en bas, tu as compris, il faut monter là-haut. OK. Bah, c'est dur. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et quand c'est fait dans la joie, ça s'appelle, il y a deux choix, de crainte, choix d'amour. Quand tu fais parce que pas parce que tu dis, avec Fatima et Christine, je vais payer un de ces enfers. Non! Qu'est-ce que je fous ici? Moi, je sais pas moi. Moi, je veux la vérité. Je veux Dieu. Je veux mon peuple. Je veux ma Torah. Je veux être un type bien. Et nous tous avons en nous. C'est un grand secret que je vous transmets. La partie la plus haute que nous avons, c'est la neshama, ce qu'on appelle la volonté. Mais dans la volonté, il y a deux sortes de volonté. Tu vas au bistrot, qu'est-ce que tu veux? Une pizza ou un hamburger? Je veux une pizza. C'est pas de la volonté, ça. Ça, c'est rien. Ça, c'est la pulsion de l'estomac. Ce qu'on appelle, nous, volonté, c'est... C'est la chose la volonté la plus première, la plus haute que nous avons. Je vous dévoile qu'est-ce qu'elle est. La volonté la plus profonde qu'on a en nous, on veut être quelqu'un de bien. Chaque être humain, aussi ordure qu'il soit, il veut être bien. Il faudrait qu'il ait besoin aussi qu'on lui dise qu'il est bien. Il veut être bien. Alors, il peut canaliser ça dans faire de l'argent, donc je suis un type bien. Être un grand savant, je suis un type bien. Ou être quelqu'un de bien, d'ailleurs, proche de la vérité, de Dieu, qui est le bien. Mais tout le monde veut être bien. Maintenant, il y a beaucoup d'interférences. Les pulsions à moi. Bien, oui, mais j'ai des pulsions. Alors qu'est-ce qu'on fait? On commence à corriger. On fait un compromis. Ou bien on dit, ça aussi c'est bien. Le zéro que tu es en train de faire, ça aussi c'est bien. Ou demain, je serai bien. En attendant, Dieu comprend que je ne peux pas tout de suite. Il faut attendre. Voilà. On n'est pas des crêpes, d'accord? Lentement, step by step. On dit que le Yetzara, il connaît tout le chasse par cœur, toute la Gemara par cœur. Il est toujours, pour chaque chose mauvaise que tu fais, tu donnes un bon argument. Dans ce cas-là, c'est permis et tout ça, la circonstance atténuante, et demain, on fera tchouva, et tout.
Est-ce qu'on peut apprendre un peu de
chasse? Une fois, c'est terrible, je me suis trouvé dans le panneau, dans ma vie, une fois, je regrette jusqu'à aujourd'hui, je regrette. Il y a une fille qui avait fait un séminaire, elle était dans un home avec des orphelins et orphelines là-bas. Bon, une fille de 18-19 ans déjà, puis aussi un garçon là-bas. Et puis, deux, trois mois après le séminaire, elle m'appelle, elle me dit, dites-moi, si quelqu'un il a fait une avéra, il a été avec un garçon, il a fait une avéra, il a couché ensemble. S'il fait tchouva, c'est réparé. Oui, bien, c'est réparé, s'il fait une bonne tchouva, c'est réparé. Bah, dites-lui à lui, tiens. Et qui c'est le garçon, le candidat copain? Je lui dis, oui, ça va, si on fait une avéra, on fait tchouva, tout est réparé. Oui, mais oui, non, c'est réparé comme il faut. Bon, j'ai raccroché, puis après, je crois avoir compris, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas, mais j'imagine que...
C'était avant.
Elle voulait lui dire, ça va, viens, faisons la verra, après, on peut faire tchouva. Alors, tiens, je te le parle maintenant. Tu peux faire tchouva, ça marche. Donc, lui, ça... Alors, la fille m'appelle pour me dire, dites-lui à lui. Ouais, bon, moi, je crois que c'était avant. Faire attention. Donc, l'Etzer, il connaît tout. Alors, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ça marche à Tchouva, oui ou non? Oui, mais, Chazal l'ont dit, celui qui dit, je fais la verre après Tchouva, on l'empêche de faire Tchouva. On l'empêche, ça va être beaucoup... C'est possible, mais c'est très très dur. Donc, pourquoi je dis tout ça? Je dis que les épreuves, il y en a. Réparer, c'est pas facile. Maintenant, si je le fais en tant que quelqu'un qui a un fardeau et qui monte la montagne en tristesse, c'est dur. C'est dur parce que c'est pas agréable et c'est dur parce que ça fait très peu de résultats. Si tu arrives à te brancher avec les choses qui sont les plus hautes que tu as, ton ratson, ta volonté première d'être quelqu'un de bien. Et tout le monde est amoureux de la source du bien, dedans, très profondément, même quelqu'un d'athée. C'est quoi un athée? Je vais parler à un athée ce samedi soir, j'ai passé 5 heures avec lui. Un type athée. Il a dit, c'est vrai que dans la nature, on voit qu'il y a une volonté. Si on prend depuis les premières cellules protozoaires unicellulaires et on voit comment est arrivé, c'est pas possible que ce soit par hasard. Donc il y a une volonté. Oui, il y a une volonté. Donc, c'est une volonté. Il y a quelqu'un qui a la source de cette volonté. Une volonté, c'est pas comme ça, une volonté dans l'air. Appelle-le volonté, nous, ça nous aide. La nature. Hateva. Hateva. Hateva, la nature. Gematria Elohim. Dieu. Il y a une volonté. Maintenant, pourquoi il dit qu'il est athée? Parce qu'il est athée quand on lui parle du Dieu, le Dieu infantile, presque avec une image, qui, tu comprends, on aurait quelqu'un de un intello. Tu parles d'un Dieu qui est là-haut, sur son trône, avec sa barbe, et son tribunal rabbinique, son tribunal des anges, et tu fais une mitzvah, tu reçois un cadeau, tu fais une avéra, tu reçois des coups. Ça colle pas. Et c'est vrai, il a raison, c'est complètement, je vais pas dire complètement crétin, mais c'est pas juste.
Pourquoi c'est pas juste?
C'est parce qu'il n'y a pas d'image, il n'y a pas de trône, c'est tout des. C'est bien plus haut, ça nous dépend. Il faut parler des choses telles qu'elles sont. L'infini, c'est encore beaucoup moins que Dieu. L'infini, infini. C'est une chose dont on peut même pas parler. Quand on parle de Dieu, on parle même pas de lui, on parle de Hachem. C'est son dévoilement vers nous. Le nom. Le nom. Le nom de Dieu. Dieu et son nom font un. Mais ça reste le nom de Dieu. Hachem lui-même, c'est un truc tellement... Alors, quand tu imagines des choses, et quand on est enfant, on ne peut pas ne pas imaginer. Ça réduit énormément. Alors, quelqu'un qui est un télo, qui a une telle, qui est déjà grosse, qui peut saisir des choses, on lui parle d'un Dieu qui est un enfant, et il rigole. Il rigole. Mais il cherche un sens. Et il voit un sens dans le monde. Non, ça suffit. C'est un grand croyant. C'est un grand croyant.
Mais ça ne suffit pas pour qu'il fasse la vidéo.
C'est pas... Il faut rajouter un tout petit peu plus. C'est pas grand-chose, d'accord? Mais il y a à l'intérieur de lui quelque chose qui recherche un sens, une vérité. Et quand il voit un sens dans le monde, ça prouve qu'il y a un sens. Il y a un sens, donc il y a un Dieu. C'est une équation très simple. C'est pas qu'on dit le mot Dieu, ça dérange parce que les gens ont tendance à le minimiser. Bon, on est un peu dévié là. On revient maintenant sur la tristesse. Tu veux dire quelque chose?
Quand quelqu'un, il lui arrive des malheurs, etc., mm-hmm. il va se remettre en question et ça le fait réfléchir, etc. Vous avez dit souvent, au contraire, que quand il arrive quelque chose, il faut pas essayer d'analyser et comprendre pourquoi.
Nous ne pouvons pas, nous, aujourd'hui, savoir, quand un malheur nous touche, quelle est la raison qui a provoqué ce malheur. C'est juste. Mais quand un malheur nous touche, ça nous déstabilise dans notre pépère, je ne sais pas le substantif de pépère, la pépérité, d'accord? Tu es dans ta tranquillité, tu vas comme ça, tu vas dans ton pépère, dans ta vie, tout va très bien, les petits soucis, jusqu'à la tombe, d'accord? Du coup, tremblement de terre. Qu'est-ce qui se passe? Alors on ne sait pas, mais on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Quel est le sens de tout ça? Tu ne sauras pas. Et nous ne pouvons pas savoir pourquoi un malheur arrive. Si des gens, des fois, ils savent comme ça, bon, il y a des gens comme ça. Mais une personne, de façon intuitive, en elle-même, si elle est certaine, bon, peut-être qu'elle ne se trompe pas, mais quelqu'un d'extérieur lui dit, écoute, t'as fait ça, alors t'as vu ça. C'est qu'il se passe des trucs pareils. Oui, ok, mais là, mesure pour mesure, mais qui peut savoir, on dit ici quelqu'un maintenant, c'est comme un tableau tout blanc, d'accord, tu fais une tâche, ça se voit, tu te dis, ah, il y a un problème, je peux essayer de définir. Mais comme maintenant, tu as un tableau qui est plein de 1000 tâches. Alors, ça va, tu as une tâche en plus, une tâche en trois. Dieu a décidé, on avait une tâche maintenant. Alors, on prend un coup d'éponge. Tchac. Pourquoi ça est arrivé, le coup d'éponge? Et c'est pas seulement. Nous, on a un passif de réincarnation passée aussi. Donc, c'est très dur de savoir. Alors, si quelqu'un y sent, lui, oui, ok, très bien, je ne veux pas dire que c'est faux, complètement faux, mais c'est très intuitif. Quelqu'un d'extérieur allait dire, c'est parce que tu as fait ça, tu es arrivé ça. Ce qu'on peut dire en général, c'est qu'il y a des cadres généraux de pourquoi la souffrance, elle vient. Elle vient pour réparer, elle vient par amour de Dieu, pour donner plus de mérite, elle vient pour nous renforcer dans la foi en Dieu. Ça, c'est en gros le gros titre. Pourquoi? C'est pour nous renforcer dans la foi. Mais on ne pourra pas savoir le détail exactement. Mais, pour répondre à ta question, quand une fois il y a une déstabilisation, la déstabilisation, elle est source, elle peut être, si c'est un tremplin qu'on veut utiliser intelligemment, elle peut être, et c'est pour ça qu'elle est. Elle est le tremplin pour arriver à Dieu. Et beaucoup de gens ont fait tchouva lorsqu'ils se sont posés des questions. Mais pourquoi se poser des questions alors que tout allait bien? Il y a tout coup une grande gifle. Alors, on ne demande pas à Dieu d'envoyer des gifles, d'accord? Les gens peuvent faire tout intelligemment, parce que, de façon simplement que sa conscience se réveille, sa neshama, son ratson, sa volonté intérieure haute, tout à coup commence à éclairer, qu'ils disent « bouge-toi, hein, le but c'est pas ça ». On a gagné le gros lot, pas besoin de recevoir une gifle. Nous devons développer ces parties en nous qui sont les parties qui sont belles. Comme dans l'éducation, si tu veux éduquer ton fils à faire les choses par peur de la punition, ou pour la sucette, c'est pas possible. Dis-lui maintenant, je t'aime quand tu fais ça. C'est beaucoup plus grand que tout. C'est beaucoup plus grand que tout. Il dit, oui, papa, mais je veux aussi la sucette. Bon, il est resté enfant, je veux aussi la sucette, d'accord. Mais il a besoin. Demande à un psychologue, de quoi il a besoin, mon fils, plus de sucette. Tu as tellement d'enfants qui sont déprimés après, qui sont en train de fumer de l'air ou je sais pas quoi, des fils de millionnaires, parce qu'ils ont jamais eu leur père, mais ils ont eu toutes les sucettes du monde. Toutes les sucettes, et tout ce que tu veux, ils ont eu. Mais ils n'ont pas eu de l'amour. N'importe quel psy te dira, l'important, c'est l'amour. Papa, je veux aussi la sucette. Tu veux maintenant un mot d'amour ou une sucette? Tu diras, je veux la sucette. Mais nous savons qu'il a besoin d'amour. Donc nous voyons que c'est ça l'essentiel maintenant. Si, même avec Dieu. Alors Dieu maintenant, ou bien je peux le servir parce qu'il y a le bâton, ou bien parce qu'il y a la sucette, mais si maintenant je comprends, c'est un autre message. Et ce message, il nous donne de la joie, de la joie. La tristesse, c'est l'envoyé du mal. Amalek. Le doute aussi. Valeur numérique de Safek, doute, c'est Amalek. Son arme, c'est la tristesse. Tu vois que quand tu es en tristesse, les doutes commencent à venir aussi. Peut-être pas, le sens de... Quand quelqu'un est out, c'est très bien qu'il ait des doutes. Quand tu es out, tu as des chances avec des doutes de venir in. Mais quand tu es in, quand tu as des doutes, tu as un risque de sortir out. Donc, Amalek, son arme, c'est ça. Le doute, la tristesse. Je dis ça l'autre jour, je crois. Hein. Je répète. Il n'y a pas d'arme, il n'y a pas de choses qui mettent plus de tum'a. Tum'a, c'est impureté, mais ça vient de la racine atum. Atum signifie boucher. Tu bouches tous tes tuyaux, tous tes fils de connexion avec Dieu, ils deviennent bouchés. C'est mort. Dieu est la source de vie. Il n'y a plus de vie, il n'y a que c'est bouché, ça devient complètement mort. Ça, c'est tum'a. C'est l'impureté. Il n'y a pas de source d'impureté plus grande que la tristesse. Parce que ça bloque tout. Et tu n'as pas de source de doucha, de sainteté, de tahara, de pureté plus grande que la joie. À la fin de l'Ilchot Mikvot, on finira avec cela, les lois de Mikvé. En parlant, c'est bien le Mikvé, c'est bien pour enlever l'impureté, amener la pureté et de la joie. Mikvé, Gematria, valeur numérique de Mikvé, c'est casse. Casse. C'est les nerfs et la tristesse. Ça répare. À la fin des lois de Mikvaot, de Mikvé, alors Maïmonide dit que quand quelqu'un trempe dans Mémé Hadat, comme ça il est dit, dans les eaux de date de la conscience, alors tu n'as pas de grande pureté plus grande pureté que cela. Tu as le Mikvé physique, tu trempes dans de l'eau de la création, de l'eau de pluie pure, et tu as le Mikvé spirituel qui est date. La conscience. La conscience veut dire une... C'est ça le ratson, c'est le ma volonté profonde, conscient de moi-même, qui je suis, vers où je vais, qu'est-ce qui se passe dans ce monde. Quand tu as ces réponses et tu vis ces réponses, alors tu trempes dans l'eau de la pureté. Tu es branché avec la source de pureté. Baruch Adonai, l'homme va mais.